Cogeco Nouvelles.
Le jeudi 19 décembre, ici c'est...
Alors, il est midi pile, et nous allons nous transporter à la salle qui a été réservée pour cette conférence de presse, annonçant ou non le départ de la traverse à Kakuna. Alors, on va aller rejoindre tout de suite Kevin Beaulé et Louis Deschênes qui sont là en direct. Salut les gars!
Oui, salut Daniel. Ouais, salut.
Bon, ben, tout ce qu'on attend, c'est la décision.
Oui, ben exactement, Daniel. La conférence de presse qui va débuter dans les prochaines minutes. Et je peux vous dire une chose, c'est que on a eu l'information comme quoi la traverse va bel et bien déménager vers Kakuna à partir de 2028. On a eu justement une rencontre avant la conférence de presse avec un représentant de la Société des traversiers du Québec qui a confirmé l'information.
OK. Alors, à la limite, Kevin, pas de surprise, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce briefing que vous avez eu là il y a quelques minutes à peine?
Ben écoute, Louis qui est avec moi pourra peut-être commenter également, mais le gros de la décision, c'est le montant que ça va coûter, Daniel, pour préserver le service ici à Rivière-du-Loup comparativement au montant que ça pourrait vers Kakuna. C'est vraiment le gros point. C'est 170,5 millions que ça va coûter pour aller vers Kakuna. Et ça coûterait au-delà de 600 millions de dollars pour rester à Rivière-du-Loup.
Ouais. Ouais, exactement. Écoute, Daniel, on parle de 665 millions même. Pour l'instant, on n'a pas eu trop d'explications, sinon que nous dire que ce sont des ingénieurs qui ont évidemment amené ces chiffres-là. Faut mentionner également, bon, ce qu'on amène encore une fois, c'est le fameux dragage. C'est la même chose qu'on nous avait mentionné, tu vas te souvenir, en décembre 2020. Donc, le fait qu'on ne peut draguer pendant une certaine période maintenant, le fait également que l'ensablement ou la présence de sable, ou appelons ça l'envasement là, pour qu'on se comprenne, est également très élevé. Même la troisième raison qui nous a un peu surpris, c'est on nous donne même l'aspect environnemental pour dire qu'à long terme, c'est la meilleure option du côté environnemental. Alors, c'est quand même un peu particulier, là, considérant qu'à Kakuna, il y a aussi
Exactement. On a toujours parlé de la pouponnière de Beluga du côté de Kakuna. Bon, cette option-là est moins envisagée maintenant. Il y a trois options, Daniel, qui ont été étudiées lors de l'étude d'opportunité.
Kevin, tu m'entends?
Une option du côté de Rivière-du-Loup, deux du côté de Kakuna. L'option de Rivière-du-Loup, comme je l'ai mentionné, aurait coûté 665 millions de dollars. On dit notamment en raison de 835 pieux, parce que en gros, c'est qu'on aurait prolongé le quai sur une distance là, de 500 mètres. On parle ici de travaux d'envergure qui auraient nécessité l'installation de 835 pieux. Donc, ça aurait coûté 665 millions comparativement à 170,5 millions du côté de Kakuna. On parle également, avec une traverse à Kakuna, d'une possibilité d'allonger la traverse. Là-dessus, cependant, on n'a pas voulu préciser allonger. Oui, mais est-ce que c'est une traverse qui va durer une semaine de plus, un mois de plus? Est-ce que c'est une traverse à l'année, 12 mois par année? Le représentant de la Société des traversiers du Québec a quand même dit que ça ne sera pas une traverse 12 mois par année, mais on envisage, avec une traverse qui part de Kakuna, on envisage d'avoir une traverse avec une saison qui sera prolongée. Également un point à retenir, c'est que tout ça va devoir passer par un BAP. On sait à quel point ça peut être long, la tenue d'un BAP, mais le représentant de la STQ s'est quand même montré confiant en disant, on est confiant de pouvoir répondre aux exigences du BAP, incluant, parce que dans le processus, on a parlé avec différents groupes, environnementaux qui ont permis d'avoir certaines informations qui nous laissent croire qu'une traverse à Kakuna ne devrait pas avoir de problème, comme tu l'as mentionné, Louis, avec la question des belugas.
Oui, peut-être mentionner, Daniel, qu'on parle du navire, le NM Saaremaa, donc qui prendra la relève du NM Trans-Saint-Laurent. Dès 2028, les travaux qui vont quand même se prolonger jusqu'en 2031, mais ça veut dire que à la fin du contrat avec la compagnie Clark, en 2028, on sera à faire des traversées du côté de Kakuna. Alors, NM Saaremaa, là, qui sera le navire, là, c'est ce qu'on annoncera d'ici peu. Là.
Et à la question, Daniel, également, parce que j'ai posé la question. Une traverse à partir de Kakuna, c'est 20 minutes de plus pour y aller, 20 minutes de plus également pour revenir. On a dit qu'on ne prévoit pas de changement, bien que la réponse manquait peut-être un peu de précision, là, mais on pense pas avoir une diminution de service, c'est-à-dire moins de traverses, exemple dans la période forte de l'été. Donc, de ce côté-là, on semble être confiant de pouvoir avoir une traverse qui va demeurer inchangée. Et probablement que tu te poses aussi des questions, Daniel, concernant l'appel d'intérêt qu'on a lancé pour trouver des armateurs privés. Ben, pour l'instant, on n'a pas eu plus de détails. Oui, on a reçu le document qui est caviardé en bonne partie, mais le représentant de la Société des traversiers du Québec n'a pas voulu s'aventurer là concernant l'appel d'intérêt qu'on a lancé pratiquement à pareille date l'année passée, en 2023.
OK. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Allô, allô? Non, vraisemblablement.
Donc, Louis, on est en attente des principaux intervenants qui vont arriver sous peu pour la conférence de presse.
Oui, c'est une salle qui est remplie à pleine capacité. On a pu remarquer, notamment, je veux quand même mentionner la présence, parce que tous ceux qu'on pensait qu'ils allaient être là, je pense, ils sont.
Ouais.
Mais peut-être mentionner la présence de l'ancien député Denis Tardy,
oui,
député de la CAQ, qui est dans la salle.
Qui sera d'ailleurs en entrevue sur nos ondes à 15h30.
Et c'est important de le mentionner parce qu'on sait que Denis Tardy, bon, on connaît l'histoire un peu, hein. C'est que il avait quand même là été celui qui était supposé d'annoncer une première fois le transfert de la traverse. Il avait refusé, bon, avait même, semble-t-il, là, confronté le premier ministre à ce moment-là. Donc, il est ici dans la salle là, pour cette annonce aujourd'hui.
Oui, Daniel, on t'entend parce qu'on a eu des petits problèmes ici avec la connexion. Donc, on t'entend si tu as des questions. Là.
Parfait. Bon, naturellement, je trouve, si on parle d'opacité ou d'obscurité, qu'on n'ait pas voulu en dire plus sur l'appel d'intérêt privé, moi, je te dirais, Kevin, qu'à partir du moment où la décision est rendue, dans toutes les explications qui seront données, si on n'attache pas plus d'importance que ça à donner de l'information sur le pourquoi l'appel d'intérêt privé a été repoussé du revers de la main. Honnêtement, je trouve ça très décevant, là.
Ben, écoute, c'est pas qu'on ne veut pas transmettre d'informations à ce sujet-là, Daniel, c'est que le représentant de la STQ avec qui on a parlé, lui, son mandat, c'était de donner des informations précises sur l'étude d'opportunité qui a été tenue. Et les questions concernant l'appel d'intérêt, ben, on a été invité à les poser aux représentants, donc à Mme Greta Bédard qui sera là et à Geneviève Guilbeault également qui va prendre très bientôt la parole.
D'accord. Donc, finalement, tout ça, en résumé, c'est une question d'argent. Est-ce qu'on vous a donné beaucoup de statistiques, là? Combien de temps a duré cette présentation-là?
La présentation a duré une trentaine de minutes, donc de 11h15 jusqu'à 11h45. Et par la suite, ben, on a été invités là, à se rendre dans la salle. Et comme Louis l'a mentionné, Daniel, il y a beaucoup, beaucoup de monde ici, comme prévu, des acteurs du monde socio-économique, des élus également. La mairesse de Kakuna, d'ailleurs, qui fait son entrée dans la salle. Parce que faut savoir que les élus ont eu également une rencontre avec des représentants, notamment la députée Amélie Dionne et la ministre Geneviève Guilbeault. Donc, Mario Bastille, Suzanne Réaume ont eu également l'information, mais d'une personne autre que ceux avec qui on a eu l'occasion de jaser, nous, entre 11h et 11h30.
Bien. Est-ce que Mario Bastille est dans la salle? Est-ce que les gens d'affaires de Rivière-du-Loup sont là?
Bien, on n'a pas vu encore. On a vu des représentants de la ville de Rivière-du-Loup, mais Mario Bastille, honnêtement, je ne l'ai pas vu
à ton
encore.
Avis,
donc, On va suivre ça en direct. Et là, ça s'active, Daniel, dans la salle. Donc, on devrait être en mesure d'avoir cette conférence de presse très prochainement. Bon, ça a commencé avec un peu de retard. L'embargo qui était prévu jusqu'à midi. Et c'est les informations qu'on est en mesure de vous donner jusqu'à maintenant.
D'accord. Dis-moi, Kevin, est-ce que tu as l'impression que les gens de la ville l'ont appris après les journalistes dans l'ordre des choses ou un peu avant?
Ben écoute, moi, j'ai eu l'occasion de jaser avec des représentants, justement, de la ville de Rivière-du-Loup. Mario Bastille qui vient de faire son arrivée également. Sylvain Tremblay aussi, maire de Saint-Siméon. Écoute, pour avoir parlé avec certaines personnes de la ville de Rivière-du-Loup, j'ai l'impression que ça a été appris après nous, parce qu'il y a des gens qui nous regardaient à savoir est-ce que vous avez une décision qui a été prise.
OK. Et dans tout ça, ben, il faudra voir comment la ville va se comporter ensuite. Bon, parce qu'on a parlé de ce projet de loi privé-là. Tout ça, c'est bien beau, là, mais en même temps, 4 ans, c'est vite passé pour le déménagement à Kakuna. Certains prétendent encore que ça se fera jamais parce que c'est tellement coûteux, mais en même temps, ben, il faudra se préparer. Et quand on avait parlé à la MRC de Rivière-du-Loup de demander réparation ou compensation, ouais. Il va falloir également qu'on se mette à penser avec ce qu'on va faire avec ce secteur-là de la pointe, là, parce que ça fait tellement d'années, ça fait à peu près au ouais. moins 20 ans qu'on tergiverse avec ce qu'on va faire avec le secteur ouest de la pointe. Maintenant qu'on sait ce qui arrive du traversier, ben, en même temps qu'on s'occupe à essayer de le garder, il va falloir s'occuper Daniel. Aussi du reste des aménagements.
Oui, Daniel, on va arrêter parce que les principaux intervenants sont là, Bien. Donc la conférence de presse va commencer.
Bien, merci. Bon, alors, on a tout perdu. Est-ce qu'il y a un bouton qui n'a pas été levé? J'en sais absolument rien. Et comme je n'ai pas de moyen, là, autre que le téléphone de communiquer, ben là, je peux rien vous dire de plus par rapport au pourquoi on n'entend pas ce qui se passe là-bas.
Ah! Nous sommes en présence de Mme Geneviève Guilbeault.
Il faudrait monter le volume, là.
Des transports et de la mobilité durable. De Mme Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup, Témiscouataï et bientôt les Basques. De Mme Greta Bédard, présidente directrice générale de la Société de transport du Québec, des Traversées du Québec. De Mme Valérie Maltais, sous-ministre adjointe au ministère des Transports. On aimerait par ailleurs souligner la présence de M. Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup. De Mme Suzanne Réon, mairesse de Kakuna. De M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon. Ainsi que de M. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Je passerai maintenant la parole à Mme Greta Bédard pour quelques mots.
Bonjour à tous. J'aimerais partager aujourd'hui quelques explications qui sont en lien avec le dossier du Rivière-du-Loup. Comme vous savez, la problématique est simplement au pied de Rivière-du-Loup.
Bon, alors ce sont des problèmes qui sont absolument hors de notre contrôle.
Vous m'entendez bien? OK. Ça va? Ça va mieux? Vous avez bien entendu? Parfait. Devant cette problématique, une étude d'opportunité en bonne et due forme s'avérait nécessaire pour déterminer la solution optimale pour assurer la pérennité et le développement de ce lien en y exploitant le NM Sarima 1. Rappelons que le navire Trans-Saint-Laurent est en fin de vie utile et que les infrastructures terrestres de Rivière-du-Loup nécessitent des travaux de modernisation. Par ce projet, tant le gouvernement que la STQ souhaitent conserver le lien fluvial dans la même région et assurer le prolongement du service à la période hivernale, comme le demandent les communautés desservies. La réduction et l'élimination des activités de dragage à moyen et long terme étant également un des objectifs visés par le projet, comme ils ont un impact environnemental significatif. L'objectif n'a jamais été de déménager le service à un autre endroit qu'à Rivière-du-Loup. L'intention est plutôt de continuer d'offrir le service tout en palliant aux enjeux d'ensablement. Et je sais qu'il a souvent été question que le Sarima 1 n'était pas le bon navire pour opérer à Rivière-du-Loup. Comme je l'ai mentionné ici l'an dernier, avec un appui des analyses effectuées par des experts en architecture navale, l'enjeu n'est pas le navire, mais plutôt l'ensemblement sévère et rapide du site. Quelques précisions ici concernant le dossier d'opportunité. Les options qui ont été documentées dans le dossier d'opportunité incluaient la recherche d'un autre secteur d'exploitation sur le site de la traverse de Rivière-du-Loup, ainsi que la possibilité de relocaliser la traverse au port de Rouquacouna. Pour la relocalisation au niveau du secteur de Rivière-du-Loup, 4 scénarios ont été analysés plus en profondeur, mais tous avaient un problème majeur commun, la solidité des sols, ce qu'on appelle la compétence des sols. Les experts sont donc arrivés avec un 5e scénario pour Rivière-du-Loup pour être présenté dans le dossier d'opportunité. En raison des sols non compétents, le nouveau quai devait être très long.